Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
h 19h, c'est 100% paillade sur France Bleu Héros.
Lundi 18h, c'est l'heure du foot. Bonsoir Bertrand Queneut.
Bonsoir Éléonore, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dans une semaine, nous serons au Havre en espérant que les Havrais nous fichent la paix. 27e journée de Ligue 1. Mais en attendant, la trêve internationale bat toujours son plein. Alors on va l'occuper ce soir avec des débats, trois au total, autour de la défense notamment et d'une hiérarchie difficile à déterminer. Autour de Joris Chautard également, aussi incertain qu'indispensable au MHSC. Et puis en tout cas, c'est ce que je pense. Vous me direz évidemment si vous partagez. Et puis autour d'une déclaration, je ferai rentrer dans ce studio l'ensemble des enquêteurs sur ce dossier. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. En attendant, Benjamin Psaume est sur le trône. Le roi des consultants est présent.
Salut Bébert.
Maxime Reynaud est dans son nid avec une plume pareille. C'est là qu'il est le mieux installé. Bonsoir Maxime.
Merci, bonsoir.
Et là, Julien Castagnard se demande à quelle sauce il va être mangé. Julien Castagnard, lui, il est sous le feu des projecteurs parce qu'il est doté d'un très bel appareil. Bonsoir. Bonsoir Julien.
Salut Bertrand, salut à tous.
Ça a été brossé ça ?
D'ici 19h, vous allez, avec Tiffany, d'ici 19h, vous allez tenter de gagner un maillot du Montpellier Hérault et vous allez entendre aussi parler d'un des plus beaux buts de l'année marqué ce week-end par Montpellier.
100% paillade sur France Bleu Hérault. Benjamin Psaume, Bertrand Queneut.
Et avant ça, messieurs, autour de la table, je rappelle, hein, vous réagissez si vous le souhaitez, 04 67 58 6000, le hashtag Bleu Paillade également sur Twitter. Avant ça, messieurs, la paillade ne jouait pas, donc ce week-end, la Ligue 1 est à l'arrêt. Qu'avez-vous fait pour vous occuper, Maxime Reynaud? Qu'est-ce qu'il a fait de son week-end, Maxime Reynaud? Les auditeurs ont envie de savoir.
j'ai travaillé, mais j'ai regardé la finale des Frères Lebrun, et franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'ai pris vraiment mon pied devant la finale de ping-pong.
Vous avez regardé ça
sur... de tennis de table, pardon.
De ping, on peut dire le ping aussi. Ouais, il a regardé ça donc sur l'équipe TV.
C'est ça.
Bon, Julien Castagnard, qu'est-ce qu'il a fait ?
Match de l'équipe de France samedi soir.
Il s'est régalé ?
Ah, c'était génial.
Je crois qu'il n'a pas fait que ça.
Match de l'équipe de France aussi, pareil, je me suis fait chier. Bon, je suis un peu plus cru. C'était très mauvais. Dimanche, match avec la S Valergue, importantissime dans la lutte pour la montée. Malheureusement qu'on n'a pas remporté, donc on ne montera pas cette année.
Contre qui ?
C'était contre... Alors, je ne savais pas que ça existait, c'était Montpellier Inter.
D'accord.
C'est le club de Montpellier.
Okay. De toute façon, vous ne pouviez que monter, parce que descendre, c'est plus possible.
Mais après, on passe au ping, avec les frères Lebrun. Oh,
c'est pas beau.
Non, mais on se saborde la montée, mais bon, ça va être compliqué dans tous les cas. Et dimanche soir, un ancien ami, m'a proposé d'aller voir Montpellier PSG, les féminines, pour travailler l'émission du lendemain. Ouais. Et du coup, on est allé voir ce match à Grammont. Un dimanche soir à 21h, c'était sympa. Bon,
en tout cas, je vois que ton week-end a été bien rempli. Celui de Maxime Reynaud se résume à un match de 14
minutes.
J'ai travaillé.
Lui, il a juste dit France-Allemagne.
Ouais, je vais regarder. Ouais, mais après, il y a 7 heures de route déjà pour y aller pour revenir.
Maxime Reynaud, la seule personne sérieuse dans ce studio. Est-ce qu'il a regardé l'équipe de France, Maxime?
Bien sûr.
Un enseignement, vous allez chacun me dire un enseignement que vous tirez de ce match-là.
Sans Antoine Griezmann, les bleus ne sont pas les bleus.
Julien Castagnera.
Va falloir se secouer pour l'Euro.
Benjamin Psaume.
On se voit beaucoup trop beau.
Le mien, que Giroud n'a, mais alors pas du tout, à s'inquiéter d'ici cet été. C'est vrai que c'était pas terrible, on s'est pas régalé. Il y avait aussi des matchs de nos joueurs sélectionnés. J'ai vu qu'il y avait une passe de Khalil Fayad. Deux passes de Khalil Fayad, c'est pas mal. Il y a Eli Wahi qui rejoue
ce soir,
en effet, face aux États-Unis.
C'est ça.
Du côté de Sochaux, cette fois. C'était à Châteauroux.
Le stade de Sochaux,
jour.
Bertrand
Le stade de Sochaux, bah quand même. On a dit qu'on avait fait un petit quiz.
J'adore ça.
Un petit quiz sur les stades, il est pas mal, Benjamin Psaume. Bon, bah c'est bien. Je crois qu'il y a eu aussi donc une petite partie, parce qu'on a deux joueurs de jeux vidéo. Ils ont le temps, tu sais, ils ont pas de famille, alors que nous on a une famille. Mais eux, ils jouent aux jeux vidéo jusqu'à 2h du matin. Ils ont joué avec un ancien Nîmois, donc c'est pas ce qui se fait de mieux.
Ouais. Quand même, sur la scène. Ancien Arléo Avignonné, on va dire.
Des jeux vidéo. Romain Elie, pour ne pas le citer. Et je crois qu'il y a une petite embrouille.
Non.
Parce qu'il y a de la malhonnêteté d'un côté, alors que Julien, lui, c'est...
Non, pour être tout à fait honnête, voilà, il se peut que d'habitude, j'ai une domination sans partage sur Benjamin Psaume et Romain Elie. Hier, petit coup de mou, j'ai dit que je voulais pas compter les points qu'on fait d'habitude. pour moi, j'étais toujours devant. Romain Elie se pense devant. Voilà, il y a une petite bisbille. Et Benjamin Psaume est là pour entretenir la flamme, quoi.
Ouais. Là pour compter les points. Hein, j'avoue, je suis derrière, mais c'est vrai qu'il y a gros litige sur cette histoire qu'on réglera.
Le jeu, c'est Donkey Kong. On est d'accord. Hein.
C'est un peu plus agressif.
Ah, ouais. Bienvenue sur Game One.
Des fois, c'est Rire et Chanson. Des fois, c'est Game One en alterne, tu vois.
Bon, on va passer à notre premier débat, si vous le voulez bien. Quelle est la hiérarchie dans la défense héraultaise qui sera de nouveau mise à contribution à partir de dimanche 15h sur la pelouse du Havre. La défense de Montpellier est en perpétuel mouvement. Je me souviens que Maxime Reynaud l'avait noté dans cette émission, également dans les colonnes de Midi Libre, que ce soit dans l'axe ou bien sur les côtés. On va s'intéresser surtout à l'axe, au centre, ce soir, notamment avec le départ de Maxime Estève et l'arrivée de Modibo Sagnan, qui n'a pas joué le dernier match. Il était sur le banc. Sagnan que Derzac donc avait choisi de ne pas utiliser face au PSG. Si vous deviez faire un classement des défenseurs centraux aujourd'hui, quel serait ce classement, Benjamin Psaume? C'est qui le patron finalement de cette défense?
J'hésite entre Béchir et Kiki, parce que Kiki est là depuis la saison dernière, a montré beaucoup plus dans l'impact et l'agressivité, mais Béchir, c'est la classe dans la relance, dans l'intelligence, dans la lecture de jeu. Donc pour moi, les deux centraux, on l'a vu contre Paris, c'est pas pour rien que c'est eux qui démarrent. Les deux centraux titulaires, ce sont eux. Je mets Sagnan juste derrière, je mets Christopher Julien encore en retrait. Le changement de système, malheureusement, ne joue pas à la fois pour Julien et pour Sagnan, parce qu'ils sortent, Sagnan sort du 11 et Julien aura beaucoup moins de chances de rentrer. Mais voilà, c'est le taulier, pour moi, c'est des profils différents, mais pour moi, ce sont quand même deux tauliers de la défense.
Jules Castagna et Maxime Reynaud, est-ce que vous êtes d'accord avec Benjamin ou est-ce que vous avez un avis totalement différent du sien?
Pour moi, le plus fiable, c'est Béchir. Le plus, j'allais dire, impactant et celui qui parle le plus, j'imagine que c'est Kiki. Donc c'est un peu compliqué d'en sortir un des deux et un des trois. Je pense que Modibo Sagnan n'est pas encore totalement intégré. En tout cas, on en a un peu parlé, mais c'était difficile pour lui d'arriver, de trouver les automatismes avec les défenseurs, sachant que Kiki était à la CAN, par exemple, et qu'il a joué Christopher Julien et Béchir pendant un moment. Après, Béchir s'est blessé, etc. Donc je pense que Modibo Sagnan arrive après. Et après, oui, bah, Christopher Julien, c'est le quatrième, et il arrive bien après. Pour
qu'en dit Maxime Reynaud?
Je suis plutôt d'accord avec Julien, mais je mettrais Béchir Omeradjic au-dessus, un petit peu, un cran au-dessus de Kiki Kouyaté, parce qu'on l'a vu quand il était absent, et on a vu surtout quand il est revenu avec ce match à Nice notamment. On se souvient que Derzac nous expliquait qu'il commandait beaucoup plus la défense, en tout cas par la voix, que ce que ne fait pas suffisamment Kiki Kouyaté. Après, effectivement, sur les deux profils de joueurs, l'un dans les duels, l'autre plus dans la relance, ils se complètent bien finalement. Mais juste pour la parole et la prise de décision, on va dire Béchir Omeradjic. Et ensuite, moi, je mettrais Christopher Julien encore devant Modibo Sagnan pour la même raison. C'est-à-dire l'autorité peut-être naturelle, celle que n'a pas encore Modibo Sagnan. Donc c'est vraiment à l'instant T.
Pas d'accord.
Bon, après, pas forcément d'accord. Je vois quand même, moi, perso, plus de qualité en Modibo Sagnan qu'en Christopher Julien. Alors, il vient d'arriver, c'est sûr qu'il a un peu moins de gouaille. Mais quand je vois Christopher Julien, je vois pas non plus un aboyeur, réellement.
Non.
Et la différence, c'est que Julien est à l'aise que pour moi, vraiment, que dans un certain système, c'est à 300 trop. Sagnan, je pense que tu peux le mettre à deux aussi, parce qu'il a la passe. Ben, moi, je trouve qu'il a la relance, il a le pied gauche quand tu le mets central gauche, où on l'a vu sur ses premiers matchs, notamment à Rennes, où il trouvait des passes qui cassent les lignes. Et je le trouvais plus intéressant avec le ballon. Et dans le duel, il est pas lent. Je le trouve pas lent. Donc moi, je préfère les qualités de Sagnan. Et il y a le gros point, et limite, qui me ferait réfléchir si j'étais entraîneur du MHSC. Je l'ai revu là. Ben, là, il a marqué avec le Mali encore. Sur les coups de pied arrêtés, il a super jeu de tête, un super timing. Et c'est un truc tout bête, vous allez rigoler, mais j'ai connu des entraîneurs qui, des fois, faisaient le choix en fonction du jeu de tête. Parce que si à l'avant-dernière journée, t'as un coup de pied arrêté à 85e et c'est Sagnan qui va te libérer, qui te maintient, ça peut jouer aussi dans les choix des coachs. Et je pense que c'est notre meilleur joueur de tête offensif.
Et d'ailleurs, sur les 2-3 dernières saisons, dites-moi si vous partagez aussi ça, mais sur les 2-3 dernières saisons, à part les derniers mois de Maxime Estève qui commençait à se révéler offensivement sur les coups de pied arrêtés, que ce soit en marquant comme à Metz ou en déviation, vers Calil contre Marseille, si je dis pas de bêtises. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un défenseur central qui se montrait, à défaut d'être décisif, au moins dangereux sur les coups de pied arrêtés. C'était pas le cas de Kiki Kouyaté, c'est pas le cas de Béchir Omeradjic, qui peut être dangereux, mais quand il se projette comme il l'a fait en Coupe de France ou sur d'autres matchs, là il peut être intéressant. Mais Christopher Julien, malgré sa taille, n'a pas été dangereux sur les coups de pied arrêtés. C'est la première fois en 2-3 ans depuis le départ de Daniel Congrès, Vitorino Hilton, ces garçons façon-là qu'on n'avait pas eu un élément dangereux défensivement devant.
Il en a eu quelques-unes, Christopher Julien, quand même, avec des arrêts de gardien, où je crois qu'une fois il avait frappé le poteau aussi.
Après, il a du mal, il a toujours eu du mal.
Non, c'est Bodi Bossalian qui est le mieux TJ sur ses corners, notamment.
Dans la bonne zone, il y a un bon timing entre TJ de centreur et Sagnan. Ils ont toujours le bon timing où Sagnan arrive toujours lancé. Julien, il nous l'a expliqué, on en avait parlé, tu t'en rappelles, Bertrand, la saison dernière. Il a jamais réellement réussi à lire les trajectoires de TJ. Ben, c'est une frappe particulière. Et c'est vrai que Sagnan, dans le timing, j'ai revu le buteur là qui met avec le Mali. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Il met un coup de tête. Il est au point de péno. Il a mis du carne opposé. Et franchement, je pense que ouais, c'est un gros atout pour nous.
Après, pour revenir sur la défense, Bertrand, quand on joue à 4 derrière, pour moi, la seule charnière qui est pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, quand je peux dire, qui s'entend très bien et qui se complète, c'est pour moi, c'est Béchir et Kiki. Kiki et Maudit Bossagnan, pour moi, ils se complètent pas assez, en fait. Ils sont à peu près sur les mêmes temps forts, sur les mêmes points forts, même si Maudit Bossagnan a pour moi un meilleur jeu de passe, mais c'est bien en dessous de Béchir. Si on joue à 3 derrière, pour moi, par contre, les 3 peuvent être clairement ensemble. Et là, pour moi, Julien, c'est le seul dispositif, je pense, comme Benji, où il peut jouer, c'est à 3 derrière au milieu.
Et c'est l'avis, en effet, par exemple, de Julien, là, sur Twitter, qui nous dit, pour moi, Kouyaté Omeradjik dans l'axe, il va plus loin. S'il a Tchato sur les côtés, je sais que le débat a divisé l'autre jour sur Tchato FT, par exemple. Il y a des pros FT et des pros Tchato.
FT qui est de retour cette semaine à l'entraînement, d'ailleurs, entre en passage.
Oui, et qui revient de blessure.
Voilà, qui reprend l'entraînement normal cette semaine.
Toujours un certain Chotard, ça avait été dit par le Midi Libre dimanche, parce que ça travaillait dimanche, ça travaille le dimanche.
Hein, ça bosse.
Pour pouvoir avoir les horaires majorés.
C'est pas le barbeur con.
Défense à 4 quand on n'a pas de vrai piston, nous dit aussi Julien sur Twitter. Alors qu'on a de vrais ailiers, hashtag Bleu Paillade. Question, Maxime Reynaud, vous qui avez bossé tout le week-end H24, est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qu'avait donné la Suisse, et notamment la Suisse de Béchir Omeradjik, justement?
Alors, pas du tout, je connais le score, mais c'est tout.
Bon,
je sais que Béchir n'a pas joué, 0-0, c'est contre le Danemark.
Il n'a pas joué, en effet. Autre question, messieurs, puisque vous me mettez Béchir Omeradjik numéro 1 de cette défense héroltaise, je me projette, je vais un petit peu plus loin. Est-ce que vous voyez Béchir Omeradjik faire une nouvelle saison avec Montpellier la saison prochaine?
Compliqué
pour plusieurs facteurs, à la fois pour lui et ce qu'il a vécu cette saison, parce que vivre une saison comme ça, ça marque un joueur. Il pensait pas arriver dans un club qui allait jouer le maintien et qui saurait pas 9 journées de la fin, 8 journées pardon, s'il allait se maintenir. Et c'est l'une des rares satisfactions. Et bien évidemment, quand t'es un club, c'est des fois parfois plus facile d'aller convaincre et chercher un joueur dans un club qui a joué le maintien plutôt que dans un autre club. Donc peut-être que l'envie du joueur va être de partir pour pas rester pas revivre une saison comme ça. Et après, les prestations qu'il fait, on est tous d'accord, ça va taper à la porte. Il est en sélection aussi, et ça va taper à la porte.
Et puis même Montpellier, c'est pas un club qui peut retenir ses joueurs, qui peut se permettre de les retenir si une offre, on va dire, même de l'ordre de Maxime Esteve, etc. Si une belle offre arrive, il partira forcément. S'il décide de partir, il partira.
Maxime Reynaud, tu vois Béchir Omeradjik disposé d'offres sérieuses et alléchantes pour Montpellier cet été?
Bah, j'aurais du mal à comprendre que ça soit pas le cas, vu ses prestations, vu le niveau qu'il a conservé tout au long de la saison, parce que franchement, on l'a rarement vu en dedans, peut-être
contre le PSG.
Quelques rares fois, il a eu des...
Vu son statut aussi, nouveau, même s'il est encore entre guillemets.
Il revient à... ça reste un jeune joueur, je vois pas pourquoi des clubs seraient pas intéressés, et je vois pas pourquoi Montpellier... Le prix serait inférieur à celui de Maxime Esteve, par exemple.
Excuse-moi, il y a le chroniqueur de haut micro qui veut parler.
Arrête.
Il y a une marionnette là qui fait que de
bouger. Il s'agite. Je lève juste le doigt quand il a fini. Après, je.
Ah, il fait des mini. Là, c'était Gouloum. Il faisait comme lui de finesse, tu sais.
Le tout petit bémol important. Moi, je suis un club. On n'arrive pas à régler cette voûte plantaire. On n'arrive pas à la régler parce qu'en fait, il l'a depuis le début de saison. Eh ouais, mais Bébert, moi je te dis qu'un club, qu'est-ce qu'il regarde en premier? Il regarde l'historique des blessures.
Il regarde la voûte plantaire. Et... Un club, quand il recrute un défenseur, c'est voûte plantaire.
Si tu savais, le plus chiant pour un joueur foot pro, c'est la visite médicale dans un club. Tu passes 2 jours, tu pètes un plomb, il regarde tout.
C'est pareil à Radio France.
Et sinon, je serais pas là. Sinon, je serais pas passé à Radio France. Mais et cette voûte plantaire, peut-être qu'elle peut freiner d'éventuels clubs, notamment anglais, parce qu'en Angleterre, alors là, l'intensité, les visites sont poussées énormément. Et surtout, le souci, c'est qu'on n'a jamais réglé ça. Parce qu'il faut savoir une chose, les amis, ça fait des mois que Béchir Omerhadjid, il joue sur des œufs, il joue blessé. Il faut le savoir. Et vraiment, on le met à l'arrêt, vraiment, quand il sort en cours de match, et vraiment qu'on n'en peut plus. Mais on n'arrive pas à régler ce souci. Et peut-être qu'un club qui va mettre peut-être 10, 15 millions d'euros va regarder ce facteur-là.
Après, il y a des joueurs qui ont fait une carrière en étant voûtés, jusqu'à Stanira.
Non, c'est petit, ça.
L'attaque sur le physique, fais gaffe.
Celle-là, elle est vraiment.
Fais gaffe d'attaquer sur le physique. Parce que il peut y avoir un dérapage en direct. Bon, je vais appeler Jimmy, il va te matraquer encore.
C'est déjà fait. JB, il est persona non grata. 18h20, vos messages évidemment sur le hashtag Bleu Paillade. Il y a Tom qui nous dit rendez-nous Joris. On va parler de Joris Chotard. En effet, Joris Chotard incertain. On est donc tous d'accord pour dire que Béchir Omerhadjik, en tout cas, est le leader de cette défense héraultaise. L'incontestable, quand on dispose de tous les éléments, c'est celui qu'on coche en premier. Il y a toujours un joueur comme ça par ligne qu'on coche en premier. Est-ce que Joris Chotard est celui qu'on coche en premier quand on fait le milieu de terrain? Sans doute.
Il y en a trois qui sont cochés.
Je pense qu'il n'est pas coché à TJ quand même.
Je t'ai dit, on a trois milieux de terrain qui sont cochés.
Oui, à Montpellier, il y en a trois de toute façon qui sont cochés et les autres ne sont pas cochés. Joris Chotard, incertain face au Havre dimanche. Le milieu de terrain est blessé au mollet, au solaire, Benjamin Psaume.
C'est ce que je me suis fait encore hier.
Et d'ailleurs, quand un club recrute un milieu de terrain et regarde le solaire.
Rigole pas, le solaire, attention, parce que solaire, on appelle ça la blessure de vieux. Un club qui voit que Joris Chotard, il a quoi, il a 25 ans? À 22 ans, tu commences à avoir le solaire qui queen. Attention aussi, il faut faire gaffe pour la suite de la carrière. Joris Chotard, rapidement, le médical n'a pas donné l'aval pour le Havre. Comme d'habitude, comme on explique à chaque fois, le médical n'a pas donné l'aval. Par contre, c'est le staff et le technique qui va choisir s'ils prennent le risque ou pas, comme d'habitude. Mais il n'a pas l'autorisation en termes médicaux de jouer au Havre.
Ouais, les derniers examens n'étaient pas ultra positifs.
Il y a encore du sang dans le solaire et solaire. Le problème, c'est on va pas faire le docteur. Il y a le docteur Payet aujourd'hui ou pas?
Non, on est lundi.
Mais le truc, c'est que le solaire, en fait. Tu te fais un ischio, tu te fais un quadri, tu le soignes, tu te mets au repos. Mais le solaire, Joris Chotard, il va aller dans sa cuisine, il va monter son escalier, il va marcher, il va aller chercher la télécommande. Il sollicite ce solaire. C'est le solaire, c'est juste le muscle de la marche. Et dès que tu fais une impulsion avec le pied, et c'est pour ça que c'est très très long à soigner. Et on a du mal à le soigner. Donc faut vraiment être immobilisé réellement. Et c'est pour ça qu'on prend pas de risque. Le solaire, c'est le pire muscle à se péter.
Après, vu la cote de popularité de Joris Chotard, je suis persuadé qu'il y a une pléiade de supporters qui sont prêts à aller chercher la télécommande à sa place.
Je pousse le fauteuil.
Voilà, il est dans la cuisine. Moi, je viens dans la cuisine de Joris Chotard. Je cuisine très bien. Je cuisine beaucoup en ce moment. Je peux aller faire les petits plats de Joris Chotard. Son absence, messieurs, est-elle handicapante pour Montpellier? Mais comment? Vous allez me répondre. Quatre propositions. Pas vraiment. On peut le remplacer. Plutôt, beaucoup ou terriblement. Et explication également. Benjamin Psaume. Son absence à Joris Chotard. Pas vraiment. Plutôt, beaucoup, terriblement.
Bah, terriblement, après c'est moi terriblement parce que pour moi c'est le MVP de la saison, à la fois dans ses performances, puisqu'on s'en rend pas compte, c'est le travail de l'ombre, mais moi quand je regarde un match, je regarde tout et je le vois couper des multitudes d'actions adverses, être la soupape de cette équipe. Alors des fois il était moins bien, comme tout le monde, il a des matchs où il était moins bien, mais état d'esprit irréprochable, toujours guerrier. Exactement ce qu'il te faut pour jouer un maintien. Un money time, il te faut des joueurs comme ça. Et donc son absence fait très très mal, parce qu'on a vu que le Roi qui essayait de prendre la relève, c'est pas forcément, c'est exactement le genre de joueur qui est pas fait pour moi pour jouer un maintien. C'est un jeune et on le lance comme ça. Il a pas forcément l'agressivité, la grinta que peut avoir un Chotard. Et donc voilà, ça fait, c'est terriblement à la fois le joueur et l'homme dans un vestiaire, parce que lui, s'il y en a un, peut-être à un moment donné, qui doit leur dire à trois journées de la fin, les gars, je suis formé ici, jamais de la vie, je veux les rendre le club en Ligue. Un peu comme TJ l'avait expliqué, qui sont venus, les joueurs, tous ceux qui sont arrivés, on a eu énormément de recrues, ils sont arrivés, le club est en Ligue 1, rendez-le en Ligue 1. Mais un jour, si Joris Chotard à la causerie, il se lève et il leur explique ça, ça aura énormément de sens parce qu'il est formé ici, il a été irréprochable depuis le début. Donc faut vraiment. Alors perso, pour le Havre, moi je te le dis, je le prends pas, je le laisse au repos, je prends aucun risque, parce que je sais que si après je l'ai pour le Money Time, pour Lorient et tout le reste, je prends aucun risque avec lui. Mais c'est vrai que il va manquer terriblement à cette équipe.
Maxime Reynaud.
Bon, on va y aller, nous.
C'est trop long.
Non, pas du tout, mais t'as tout dit sur Joris Chotard. L'impact dans la mentalité, il est évident avec lui. On le mesure depuis plusieurs saisons déjà. Ensuite, après, moi, si on me propose Léo Leroy qui est entré à Nice. Ouais. Et qui là, pour le coup, avait la grinta, une grinta qui effectivement, on lui connaît que trop rarement. Et c'est dommage parce que c'est un vrai bon joueur, je pense, intrinsèquement, dans les qualités techniques, même dans. Il n'est pas à ce niveau-là pour rien, mais il a du mal encore à franchir ce cap. Donc, avec le Léo Leroy de Nice, je dis probablement que l'absence de Joris Chautard pèsera. Avec le Léo Leroy qu'on a vu contre Paris, par exemple, je suis plus inquiet.
Ouais. Julie nous dit Chautard cette saison a encore franchi un palier et c'est son caractère et état d'esprit qui nous manque en plus du sportif. On va parler justement de ses qualités défensives et offensives, de ce qui a changé. Jus Castagnera, est-ce que et Maxime aussi peut répondre à cette question-là, celle introduite par Benjamin, est-ce que vous prendriez le risque de le faire jouer face au Havre ou est-ce qu'on peut s'en passer?
Non, on prend déjà assez de risques comme ça avec Moussa, etc., avec Arnaud pendant un temps. Je pense que eux, si on les perdait, on avait quand même un peu de solution sur le banc, même si c'était pas Idouane et au top niveau. Là, si tu perds Joris pour la fin de saison, sachant que le Havre, ça avait déjà été un gros duel physique, mais en fait, c'est juste la première guerre qu'il va y avoir au milieu de terrain. Et Joris, c'est celui qui est le plus dans l'impact, celui qui va le plus au duel, etc. Déjà, s'il joue à 50%, il va se faire désosser par Kouzaïef, etc. Donc non, moi je le mettrai au repos, justement pour le récupérer face à Lorient et les autres guerres qui t'annoncent au milieu de terrain.
Maxime, est-ce qu'on peut s'en passer face au Havre?
Oui, il va falloir. Il va falloir, je suis de l'avis de Julien. Moi je préfère ne pas avoir Joris un match contre le Havre et l'avoir pour la fin de saison où ça sera capital contre Lorient, Toulouse, Nantes, tous ces matchs-là, et même peut-être les deux derniers, Monaco et Lens, que le perdre sur la durée.
Après, si on regarde l'historique de la saison, parce que Kala, on en a parlé énormément, Nordin, comme il dit, Tamari, Nordin, Silla à l'époque, si vraiment ils restent dans leur ligne directrice, il sera au Havre. Parce qu'à chaque fois, on prend le risque, sans forcément avoir l'aval du médical, on prend le risque côté Montpellier.
Après, Ben, ce qui était différent, c'est que tu prenais le risque parce que tu étais vraiment en peine offensivement et que en fait, pour eux, c'était leur seule solution. Parce que Caramo, parce que Koulibaly ne faisait
là,
pas.
Là, tu peux mettre le Roi, là, tu peux mettre Fayad en fonction.
Tu vois, pour moi, c'est moins en fait Moussa et Arnaud, ils les considéraient vraiment comme des nouvelles recrues, etc. Dans ça que je te dis que en fait ouais, bien sûr, si on suit vraiment leur logique, ils vont prendre le risque et ils verront bien, mais d'un autre côté en fait t'as un peu plus d'opportunités possibilités de le remplacer.
C'est TJ qui t'apporte aussi cette opportunité, parce que comme tu dis, après tu peux mettre TJ et Jordan en 6 et on a un mec que je trouve plutôt pas mal en ce moment, mais peut-être Wabi,
mais
d'accord. Mais Wabi reste à la maison et je sais pas qui se rendu, mais si on a vu ce cas-là, peut-être Wabi tu le mettais en soutien, tu voyais, de deux attaquants, tu voyais, mais c'est TJ le facteur X, parce que TJ, ce qui est cool par contre, c'est qu'il peut jouer pointe haute ou pointe basse, ou il peut jouer à 2-6 à plat. Donc Chautard peut-être numériquement peut être remplacé par TJ.
Et dans un instant tu vas pouvoir répondre à la question de Jackie sur Twitter, qui dit si Chautard est blessé, ça fait un moment que des supporters comme Jackie proposent cette alternative. Ne faut-il pas aligner, sacrifier Béchir Omeradji en 6? Réponse dans un instant, un peu de suspense, tu vois, un peu de teasing. Benjamin Psaume, c'est comme au micro sur Canal, ça. 18h27, à tout de suite.
Nos terres agricoles subissent déjà les conséquences du changement climatique. L'agroforesterie est une solution qui associe la plantation d'arbres aux activités agricoles existantes. Laurent Isambert, agriculteur, nous en parle.
J'ai planté une première parcelle, donc on a entouré de haies. Pour moi, l'agroforesterie répond à pas mal de ces enjeux, que ce soit en termes de biodiversité ou d'excès climatique.
La Fondation Good Planet soutient la transition agroécologique. Pour nous aider, rendez-vous sur goodplanet.org.
IKEA.
Mon cœur, on est bien mercredi aujourd'hui.
Non, on n'est pas mercredi.
T'es sûr?
Bah oui.
Oh non!
Difficile d'attendre pour profiter des crazy mercredis dans nos restaurants. Tous les mercredis jusqu'au 28 août, les plats chauds sont à moitié prix pour les membres IKEA Family, comme les boulettes végétales à 2,97€ au lieu de 5,95€. Conditions sur IKEA.fr, crazy égale fou. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Un mot sur vos conditions de circulation dans le département. Sur les autoroutes de l'Hérault, rien à signaler. En revanche, à Montpellier, c'est compliqué pour accéder à l'agglomération montpelliéraine, notamment sur la route des plages. Les grands axes du nord de l'agglomération également, comme l'avenue de la Liberté, la route de Ganges, la rue d'Alco, il y a beaucoup de monde. Et puis il y a cet embouteillage qui s'est formé juste après le centre commercial Trifontaine quand vous allez en direction de Saint-Gély-du-Fesque sur la N113, ça coince quand vous longez Bayargues et Vendargues. À Béziers, c'est principalement sur le tronçon de la rocade qui est en travaux que ça coince quand vous longez Maraussan. Soyez prudents. Sauf celle Tainted Love sur France Bleu Hérault.
Into the heart of me, the love we share. hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Touch me, baby, tainted.
Qui sont dans l'esprit de se battre. On jouera avec des gens qui sont dans l'esprit de porter haut les couleurs de la paillade, tout simplement.
04 67 58 6000. On vous attend dans 100% paillade sur France Bleu Héros.
18h32, Bertrand Queneut, il vous reste 28 minutes. On a des cadeaux à faire gagner, on a plein de choses là, non ? Pas de cadeaux ? Non, pas de cadeaux ?
Qu'est-ce que vous offrez ?
Oh non, j'ai cru. Bah, je suis déçu. Maintenant, voilà.
Si,
bravo.
Non, on peut faire une sélection, si vous voulez, pour vendredi. Ce sera vendredi, vraiment, le cadeau. On aura un maillot du MHSC à faire gagner. Vous pouvez appeler Elsa tout de suite, 04 67 58 6000 pour vous inscrire. Il faudra trois gagnants, voilà, il faudra trois candidats pour gagner ce maillot-là. Il y aura une question subsidiaire vendredi soir en direct dans l'émission. Donc, vous appelez tout de suite le 04 67 58 6000. Elsa, elle prend vos noms, elle prend vos prénoms, elle prend votre pédigré, elle prend tout. Elle prend tout ce qu'il y a à prendre, le numéro de la carte bleue également.
J'espère que ce sera un peu mieux. Ces derniers temps, niveau jeu, t'es pas ouf.
Si, j'en ai fait
pas
mal.
T'es pas ouf en ce moment.
Eh ben, celui de vendredi sera pas mal. Je pense qu'il va te plaire.
Ouais, j'espère. Ouais. Et je peux jouer aussi, j'aimerais bien jouer.
Bon, on en était où ? On en était à parler de Joël Chautard. Tiens, il y a Jackie qui nous demandait, qui en tout cas émettait l'idée de pouvoir faire monter Omer Hadjik en 6 devant la défense en l'absence de Joël Chautard. Vous en pensez quoi ? Ça fait un petit moment que je vois ça.
Alors si on avait, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà pensé, en temps normal, je pense qu'il a les qualités pour jouer 6 sans problème, en temps normal. Mais comme on l'a dit, pour moi, c'est notre meilleur défenseur. Et en fait, pour moi, c'est notre meilleur défenseur et on en a trop besoin au poste de central pour le changer de poste et le mettre en 6, parce que ça reste quand même un poste vital aussi, défenseur central. On aurait un Christopher Julien, Modibo Sagnan, qui performe énormément quand ils sont amenés à jouer. J'aurais un Sagnan qui performe, un Kouyaté qui performe, si je joue à 4. Mais peut-être que je te les mets en troisième centrale, en sentinelle. Vraiment en sentinelle. Et je lui dis, tu fais la sécurité au Havre ou à Lorient, tu fais la sécurité entre les deux centraux. Mais comme pour moi, à Kiki, s'il nous alterne le bon et le moins bon, et Sagnan n'est plus dans le 11, en fait, pour moi, c'est notre meilleur défenseur, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et je voudrais pas qu'on gâche une petite partie de son talent et qu'il soit moins important et moins influent dans l'équipe en le changeant de poste. Et en le gardant pas à son poste préférentiel, ça l'empêche pas de relancer les ballons, d'être central. Donc pour l'instant, je le garderai parce que malheureusement, j'ai des défenseurs à sa place qui font pas l'affaire comme il peut la faire.
18h34, j'ai Jean-François Marcillargue qui nous appelle et qui a une solution pour remplacer Joris Chautard. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Jean-François, nous t'écoutons. Tu peux aussi réagir à ce que vient de dire Benjamin Psaume sur le repositionnement éventuel de Béchir Omer Hadjik, mais on t'écoute.
Ben moi, et pourquoi on n'essayerait pas de mettre Fayad au milieu et de refaire reculer Jordan Ferry ?
Ouais, c'est aussi ce que dit Julien sur Twitter. Là, je lis le message. Ferry plus bas avec Fayad qui ronge son frein en ce moment. Si Chautard n'est pas apte, hashtag voilà. Bleu Payade.
Ouais. Mais malheureusement, on en a parlé depuis longtemps, Jean-François. On a une petite énigme avec Fayad.
Elle a été en partie solutionnée par Michel Derzakarian en conférence de presse.
Ouais,
qui a évoqué son cas.
Qui a évoqué son cas, mais malheureusement, conférence de presse, c'est une chose. Mais moi, je juge que sur les minutes jouées. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il ne fait plus démarrer les matchs. Il ne met plus dans le 11, même quand on a des absents. Et donc, c'est ça l'interrogation qu'on a. Parce que moi je suis d'accord, Jean-François et Fayad, ça peut faire la maille au milieu de terrain. Au milieu de terrain, pas sur le côté, comme on est d'accord. Mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est ce qui se passe à Grammont, s'il ne performe pas, il ne montre pas un bon état d'esprit ou il ne bosse pas à Grammont. Mais il n'arrive pas à marquer des points, malgré que, comme on le dit, il n'y a pas Joris. Malgré ça, il n'arrive pas à intégrer le 11 et ça, c'est que le coach qui peut le savoir. Hein.
Si je me souviens bien, il le fait démarrer à Brest, si je me souviens bien. Et sa mission, c'est de s'occuper de Lesmelou, et je crois que ça n'avait pas été très concluant. Hein. Est-ce qu'il paye pas un petit peu ça, parce qu'il l'avait fait revenir au milieu de terrain à ce moment-là.
Le problème, Max, c'est que si, dans la situation qu'on a passée, si tu sanctionnes un mec sur un match...
Non, je parle pas de sanction, je parle de...
Il n'a pas marqué des points. Voilà. Après, regarde, t'as Wabi qui est parti pendant
deux, trois matchs. Après, sur le moi, c'est ce que j'ai aussi toujours dit depuis le début de saison, et c'est ce que j'ai dit à Michel Derzakarian ce jour-là en conférence de presse, il m'avait dit, t'as un petit peu raison, juste un petit peu, mais c'est que je reste persuadé que Khalil Fayad est la
la principale victime de la saison de Montpellier réajustement contraint de Michel Derzakarian en permanence et notamment sur les ailes, des choix contraints de Michel Derzakarian par rapport aux blessés, des choix contraints de Michel Derzakarian en permanence depuis que la saison a débuté. Voilà. Khalil Fayad est la principale victime de ça. Il a joué pendant 6 mois à un poste qui n'est pas le sien, et je suis désolé Benji, si pendant 6 mois tu joues plus à ton poste et qu'on t'y remet sur un match et que t'es pas bon sur un match, je suis désolé, tu peux pas en effet être sanctionné. Je n'imagine pas qu'il soit sanctionné par rapport à ça. Khalil Fayad, c'est un jeune joueur. Il faut toujours se rappeler aussi de ce que nous dit régulièrement dans cette émission, ce que nous disent les formateurs dans cette émission, Francis de Tadeo en tête, mais d'autres qui sont venus parler ici, c'est un jeune joueur, Khalil Fayad. Et forcément que on a, alors je sais, beaucoup d'attentes ici à Montpellier, d'autant plus quand la saison ne tourne pas rond, on a envie que les jeunes nous sauvent, on a envie que les... Mais ce sont des jeunes qui sont en pleine ascension, progression, apprentissage, et forcément qu'il y a des va-et-vient, forcément qu'il y a des hauts et des bas plus que chez n'importe qui, et forcément que c'est encore plus compliqué quand un jeune, on l'a formaté et qu'il est milieu de terrain numéro 8 et que vous lui dites, tu vas faire la saison sur le côté gauche, sur l'aile, alors que c'est pas du tout ses qualités qui sont en
place. Après, les victimes, surtout, t'as donné des raisons, mais je pense que la principale raison, il est victime des contraintes de l'équilibre de Michel Derzakarian. Mettre Fayad dans ton milieu à 3, ça a changé complètement ça a changé complètement ton milieu de terrain, comment il va s'articuler, etc. Parce que Fayad, c'est quand même un joueur offensif qui a des facultés offensives, pour moi, plus que défensives. Et si tu le mets là-dedans, si tu le mets dans son milieu à l'heure actuelle, que t'es en train de jouer le maintien, que t'as déjà beaucoup de galères défensives pour bloquer les attaquants adverses et le milieu de terrain adverse, en fait, tout ça, c'est ton équilibre qui va en pâtir. Et pour moi, Michel Derzakarian, c'est aussi pour ça, c'est qu'en fait, l'emmener dans ce positionnement-là, ça m'énerve. Non, mais tu vois, ça m'énerve. Non, mais voilà, globalement, voilà, l'équipe de Michel Derzakarian est tellement. Globalement, l'équilibre défensif de Michel Derzakarian est plus important que l'animation offensive pour moi. Et pour moi, Fayad, en fait, c'est un problème d'une incompatibilité dans le milieu de terrain.
Jean-François, tu en dis quoi?
Moi, je dis que TJ pourrait reculer un peu aussi. Bon, bien que TJ, c'est sûr qu'au milieu, mais TJ, c'est 8-10. Mais c'est sûr que pour moi, TJ, c'est mon chouchou. Donc, de toute manière, je vais pas y cracher dessus. Parce que il en faudrait deux comme lui au milieu. Moi, ça, je le dis souvent. Hein. Si on en avait deux comme lui, un à la récupération et un à numéro 10, ça serait top.
Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Benji.
Je suis pas forcément trop d'accord avec ce que t'as dit, avec ce qu'il a dit, mais bon, je vais pas épiloguer dessus, parce que...
Et pas d'accord avec ce que j'ai dit? Avec ma démonstration?
Non, il y a une partie, je suis pas d'accord.
Il est d'accord avec Hervé Matou.
T'expliques, en fait, c'est la saison, les aléas de la saison Montpellier-Rennes qui font que ça n'a pas été un atout pour Khalil Fayad.
Et oui.
Moi, je pense l'inverse.
Si tu débutes la saison avec deux ailiers gauches, ou que t'as juste Arnaud Nordin, Khalil Fayad, tu démarres pas.
Ouais, mais que, parce qu'en fait, moi, je suis pas d'accord dans le sens où on a changé énormément de fois de système. On a souvent joué, si tu te rappelles, à un 6-2-8. Mmh. Après, que Michel Derzakarian le mette pas à son poste, ça, c'est autre chose.
Je t'ai expliqué.
Toi, t'expliques, c'est la saison Montpellier-Rennes, tout ce qui s'est passé. Déjà, il y a eu énormément de blessures.
Qui font que Michel Derzakarian ne l'a pas utilisé.
Il aurait très bien pu. Quand on a joué à un 6-2-8 avec TJ en sentinelle avec 2-8, il aurait très bien pu me mettre Fayad dans la zone du
contre-attaque.
En général, on a joué pas mal de matchs avec Ferry Chautard. On a alterné les trois. Un coup, on a mis TJ pointe haute, pointe basse. Mais Fayad, si on jouait avec TJ, on a joué pendant un moment en pointe basse, il pouvait très bien rentrer dans les 2-8. Parce que là où je suis un peu moins d'accord avec lui, c'est pas forcément pour moi qu'un joueur offensif. Il a de la qualité technique. Mais gratter des ballons, je l'ai vu faire des matchs où il peut aller chasser et gratter des ballons à des mecs. Il a les cuissots, le gabarit pour ça aussi. Donc c'est pas qu'un joueur offensif, et je pense que Michel Derzakarian, il le mettait côté.
C'est pas ce que j'ai dit.
Ouais, c'est pas ce que dit Julien.
J'ai dit juste que dans sa palette, c'est un joueur beaucoup plus offensif que Jordan Ferry, par exemple.
Qu'un Jordan
capable de plus se projeter.
Ah oui. Après, alors le Jordan Ferry qu'on a vu ces derniers temps, on l'a vu énormément se projeter. Qu'un joueur Chautard, oui. Mais moi, je te garantis que il est complet comme joueur. Il est pas encore au top de ça. Il est complet dans le sens où je lui vois autant de qualité dans l'aspect technique offensif et pour aller gratter chercher des ballons. Donc c'est un mix, c'est un numéro 8. C'est ce qu'on appelle un numéro 8, c'est un LS Melou. Melou, il est bon pour aller dans la dernière zone et tout, mais par contre, pour gratter, pour faire le chien, il fait ça. C'est les vrais 8 à l'ancienne. Mais je pense que Michel Derzakarian, qui le met sur le côté, était une erreur. Mais je pense qu'il a eu pas mal de fois l'opportunité avec les systèmes qu'on a eu successivement, les méformes de Ferry, un petit peu d'un tel, un tel, les blessures. Il y a eu énormément de blessures. Il aurait eu le temps de le mettre dans son poste de prédilection. Et c'est dans ce sens-là que je disais ça. Il aurait vraiment pu le mettre plusieurs fois à son poste de prédilection et voir ce que ça donnait.
Jean-François, merci beaucoup.
De rien.
Et bonne soirée du côté de Marcy Hargouy. Tu voulais ajouter quelque chose?
Sachez que je crois au maintien quand même. Hein.
Oui.
J'espère bien que
voilà. Dans 15 jours, Jean-François, dans 15 jours, on va déjà être bien bien fixé. Hein. Ça va aller très très vite.
Déjà, il faut qu'ils gagnent le 7 avril parce que c'est mon anniversaire. Donc,
c'est contre qui?
Ils n'ont pas le choix.
C'est Lorient, non?
C'est Lorient, bon. Oui. On va faire en sorte que ce soit le cas, Jean-François, de t'offrir un beau cadeau. Au pire, s'ils n'ont pas gagné, je t'offrirai un stylo France Bleu Héros.
Avec deux buts de Moussa, parce que Moussa, il marque avec la Jordanie, mais bon, après, vous me direz, il a tiré deux coups francs.
Mais Lorient, c'est pas le Pakistan, donc c'est vrai que c'est
pas beau, ça.
Plaisante, j'aime beaucoup Moussa.
Ouais, mais les coups francs, il n'y a pas besoin qui que ce soit en face. Et puis j'ai vu qu'avec l'équipe de France, il n'y a pas que nous qu'on prend des buts de 20 mètres. Le premier but qu'on prend, quand on a la main, c'est pas une frappe de 20.
Paya d'équipe de France, c'est un copier-coller. Hein. C'est,
c'est pas Maxime Bonallon, c'est Florian Dier. C'est une autre qualité aussi.
Ouais. Entame de mi-temps catastrophique, frappe de loin. C'est vrai que c'était. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a cassé le studio? Qu'est-ce qu'il a cassé?
Je sais pas.
Qu'est-ce que t'as fait? Mais tu sais que ça coûte une blinde, ça, mon garçon.
Non, mais c'est vrai, ouais. En tout cas,
on
peut faire des parallèles, c'est vrai, entre l'équipe de France et le MHSC.
Merci beaucoup, Jean-François. On t'embrasse à Marseille. Bonne soirée.
Bonsoir, ciao, Jean-François.
Sa vie, Benjamin Tsoum, mais j'ai pas envie de l'entendre. Je le connais pas.
Oh non, je supporte plus.
Dernier point avec Maxime Reynaud. On va rester là. Dernier point sur Joris Chotard, Maxime Reynaud. Tacle, interception, dégagement, contrôle. J'ai regardé les stats défensives de Joris Chotard. Elles sont au-dessus de celles de Jordan Ferrier. Au-dessus, j'ai pris un exemple de Mounetsi à Reims. Il navigue dans les eaux de Cacré à Lyon, Joris Chotard. Donc, je veux dire, c'est quand même un joueur très sérieux en ce qui concerne le milieu défensif. Est-ce qu'aujourd'hui, il a fait beaucoup de progrès, Joris Chotard, ces derniers mois? On le salue tous, on le dit tous, il est devenu un joueur majeur, on n'arrête pas de le dire. Est-ce que, offensivement, il ne doit pas là progresser encore davantage? On a déjà la sensation, visuellement, qu'il estime lui ou qu'il a compris qu'il devait faire des stats. Hein. Il n'est qu'à deux passes décisives et aucun but marqué, mais on le voit tenter sa chance sur les derniers matchs de loin, des grosses frappes, il y a eu poteau, il y a eu des arrêts, il n'a pas été verni. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous pensez qu'il est là son axe de progrès majeur à Joris Chotard s'il veut se faire encore davantage remarquer?
Ah ben c'est évident, mais même lui le reconnaît. Dernièrement, quand on lui a posé la question, à chaque fois, il a dit que c'était dans la projection et dans les statistiques. Enfin, j'aime pas le terme de statistique, mais en tout cas dans l'aide offensive, dans l'efficacité, dans son apport. Offensif. Maintenant, ça fait un moment qu'il le dit. Hein, ça doit faire au moins deux saisons, et on sent qu'il progresse, mais pour l'instant, il a pas la réussite totale.
Et j'ai vu en effet qu'il était, par exemple, sur les stats offensives en déficit par rapport à Maxence Cacré sur les passes, ce qu'on appelle Benjamin Psaume, je parle aux techniciens, ce qu'on appelle les passes clés.
Oui, les passes clés.
Ils ne sont pas forcément les passes décisives.
Ils jouent très passes décevantes.
Ils jouent quand même un petit peu moins haut que Cacré. Hein,
oui, après, ce n'est pas le même genre d'équipe et tout, parce que lui, il a vraiment du boulot dans un premier temps. C'est 80% de son match, c'est colmate-moi les brèches et défends, il y a de la défense. Mais une passe clé, en général, c'est la pré-passe D. Moi, j'appelle ça la pré-passe D plutôt que la passe clé. C'est la passe qui te crée le déséquilibre face à l'adversaire. Et ce n'est pas forcément la passe D à chaque fois. Mais c'est vrai, après, il n'a pas de réussite cette saison, parce que je lui ai découvert un truc cette saison que je ne savais pas. Je lui trouve une qualité de frappe. À la fois enroulé, coup de pied. Je me rappelle Chevalier, il lui fait des arrêts de folie sur les enroulés. Mais je le pensais pas aussi habile dans les frappes à longue distance ou mi-distance. Alors malheureusement, il est tombé sur des gardiens top. Mais c'est vrai qu'il pourrait être à 2-3 buts en plus. Après, il y a eu tous ses sauvetages. Parce que moi, je considère ça comme un but. Donc il y a eu tous ses sauvetages. Mais faut qu'il continue comme ça, parce que il a déjà pour moi toutes les bases d'un bon numéro 6 dans tout ce qu'il faut, le combat, la lecture des passes adverses et tout. Et c'est juste, on le dit à chaque fois, s'il rajoute un petit peu de passes décisives, de passes clés et de temps en temps une frappe de 20-30 mètres comme on les prend tous les week-ends en ce moment, il arrive à faire filoche. On va pas le garder longtemps, c'est un petit peu comme Béchir, on va pas le garder longtemps.
Et c'est très grave ce qui vient de se passer, puisque je viens de recevoir un message, je vous dirai pas de qui.
Je valide.
Joris, a-t-il fait un virement de d'une certaine somme pour parler aussi bien de lui? C'est très grave.
C'est vrai qu'on fait 25 minutes sur Joris Chotard, on peut se poser des questions.
Il y a Eli Wahi aussi.
Ah oui, attends, on va faire 25 minutes sur Eli Wahi, qui joue ce soir, qui va marquer.
Très grave.
Il va marquer le 5e but contre Liechtenstein, il va dire
des accusations qui peuvent vous coûter très cher, des accusations qui peuvent vous emmener, vous conduire en prison. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une histoire de voyance ou je ne sais quoi pour finir dans le beau drap. Donc faites
clair. C'est pas beau, ça.
18h46, messieurs. Tiens, bah justement, puisqu'on en parle. C'est une déclaration, une de plus, qui fait beaucoup, beaucoup parler, beaucoup réagir. Elle est signée Jordan Ferry. Je vous la lis ? Vous la connaissez ?
Tu peux la lire. Oui.
On la lit.
Cette année, sans se cacher, il s'est quand même passé pas mal de choses, pas mal de faits divers. Faisant que notre saison n'est pas un long fleuve tranquille. Point. Le milieu de terrain, vice-capitaine, fait évidemment référence au pétard. Pas que... Le fameux pétard. Pasculetic, le vrai pétard. Mais il dit pas mal de faits divers. Alors de quoi parle-t-il ? J'appelle dans ce studio le procureur Maxime Reynaud. J'appelle également le commissaire Castagnera. Et j'appelle le juge d'instruction Benjamin Pion.
Juge, c'est beau ça.
Magistrat.
J'ai tranché.
Indépendant. Julien Castagnera, Maxime Reynaud, de quoi parle-t-il quand il dit pas mal de faits divers ?
Mais écoute, moi j'ai l'impression que c'est une idée reçue que toute l'équipe, adopte depuis des mois maintenant. Michel Darzacar en parle souvent. On a dit qu'on arrêtait de parler du pétard, il en avait reparlé lui-même après Nice, où il nous a sorti cette phrase-là du pétard et des points en moins. Alors qu'on parlait complètement d'autres choses. Benjamin Lecomte est aussi un habitué du fait d'en parler. En fait, j'ai l'impression que toute l'équipe se conforte dans cette idée qu'il y a eu beaucoup d'événements contraires au MHSC, à part l'histoire du pétard. Certes, ça a été un tournant de la saison, on l'a déjà parlé X fois, mais on pensait tous qu'on allait tourner la page une fois qu'on allait recevoir Clermont, parce qu'on a eu l'occasion de prendre notre revanche, d'avoir une victoire à deux points, on ne l'a pas eu. On a perdu des points là-dessus, donc voilà, pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de faits divers.
Objection, votre honneur.
Maxime Reynaud. Maxime Reynaud, qui est procureur dans cette histoire, va apporter des précisions.
Comment tu peux dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'éléments contraires dans cette saison quand tu as débuté la saison sans Arnaud Nordin ?
Mais ça, c'est la vie de tous les clubs.
Est-ce que c'est
d'avoir, non, mais c'est pas la vie de tous les clubs, mais tu as l'impression
non, mais
quand
pas
même
des faits divers d'avoir des blessures dans un club.
Non mais attends, il y a eu des blessures, il y a eu l'affaire Mamadou Sakho, il y a eu le pétard, il y a eu la CAN, il y a eu alors je dis pas que c'est des faits divers, mais je dis qu'il y a eu beaucoup en une saison.
Mais
voilà
d'accord,
ce que je dis. Et mais d'ailleurs on en avait parlé la dernière fois. Quand on se refera le film de la saison, on va quand même se dire qu'il y en a eu.
Mais d'accord Max, mais dans ce cas-là tu vas à Reims, t'as Junior Ito qui a une plainte pour viol et agression sexuelle.
Ça l'empêche pas de jouer.
Et ça l'empêche pas de jouer et de marquer. Reims a eu plein de blessés, etc. Ça l'empêche pas de gagner des matchs et d'être 8e, 9e du classement et d'être en course pour la Coupe d'Europe. Tous les clubs sont voués à ça. Lorient a eu des matchs où il y avait 12, 13 blessés. Ils ont Benjamin Mendy ou qui arrivait avec franchement un lot d'affaires derrière lui.
C'est moi le juge alors.
Non mais Lorient arrivait avec Benjamin Mendy qui avait des affaires par-dessus la tête et ça les empêche pas.
Pas que la tête.
Non mais justement ça leur empêche pas un peu de relever la tête et d'être à la lutte avec Montpellier. Tous les clubs ont des lots, ont des lots d'actions, de faits divers. Non, pour moi c'est le lot d'une saison.
Sauf que l'enchaînement. Enfin,
le juge d'instruction dans cette affaire apparaît. Bonsoir Benjamin Psaume.
Bonsoir, enchanté.
Eh bien, vous avez à côté de vous le commissaire Castagnera qui a tenté de se défendre, de s'expliquer. Nous avons également le procureur Maxime Reynaud. À vous.
Je vais essayer d'être objectif et tranché, même si je supporte plus monsieur le commissaire à côté de moi. Pour moi, c'est lui qui a plus d'arguments recevables. Je suis désolé, Max.
Ouais, j'en ai pas eu beaucoup. Hein.
Ouais, t'en as pas eu des masses, mais les blessés, non. Bertrand Queneut, si t'écoutais l'émission régulièrement, t'as expliqué qu'on a été l'équipe de Ligue 1 qui avait aligné le plus de fois le même 11 cette saison.
Il ne changeait que son 11 d'un match à l'autre.
D'un match à l'autre. Et des blessés. On a les confrères tous les week-ends, des blessés, ils en ont autant, voire plus que nous dans les autres clubs. La CAN, elle est valable pour tout le monde aussi. Et honnêtement, ça fait un moment qu'on en parle, ça commence un petit peu à m'irriter profondément d'entendre ces déclarations à chaque fois de Ferry, de Lecomte, parce que le coach qui nous le dit souvent. Parce qu'en fait, j'ai une peur qu'en fait, c'est tous les lundis quand on n'a pas performé. Au décrassage, les joueurs ils se disent entre eux dans le vestiaire, mais de toute façon les gars on s'est fait flinguer par ce pétard. Bon, l'affaire Sakho c'est autre chose, parce que ça c'est autre chose. Mais ce pétard il nous a flingué, on aurait 3 points de plus. Et si tous les week-ends, tous les lundis, ils regardent le classement en se disant on aurait 3 points de plus et on s'est fait carotter, on s'est fait voler et tout, en fait c'est là que c'est dangereux, c'est là que c'est hyper dangereux. Mais par contre, en venant, j'ai travaillé mon émission, j'ai réfléchi, il y a un truc plus profond pour moi les gars dans tout ça. Il y a un truc plus profond. C'est quelque chose que j'aborde depuis le début de saison, c'est la fragilité psychologique de ce vestiaire.
C'est exactement ce que dit Tom en répondant là, ce dont on est en train de parler. Il dit qu'une équipe de gentils, aucun mental, pas un seul. Le paillage,
en fait,
faut en parler.
C'est ça qui me gêne. Et en fait, si vraiment ça les a atteints comme ça, les Lecomte, les Ferry, c'est vraiment, ils n'arrivent pas à passer outre cet événement qui est passé il y a 6 mois maintenant, c'est qu'on a une grosse carence psychologique. Et je commence à me poser la question, si on n'est pas dans ce cas-là, parce que ça commence à m'inquiéter de voir des joueurs qui ressassent ça, qui n'arrivent pas à passer outre. Clairement, je vous le dis à chaque fois, je me répète, mais on est là les lundis et les vendredis, on les a reçus à la Mosson à huis clos, on était censé les concasser, mais on n'a pas récupéré les points perdus, parce qu'il faut arrêter de dire qu'on a perdu 3 points, je ne sais pas quoi, parce que pour moi, on aurait dû concasser clairement, et au final, on perdait qu'un point dans cette histoire. Au final, réellement, parce que moi je juge qu'on a perdu un point réellement et c'est les joueurs qui ne sont pas allés chercher les 3 autres points quand Carmo est venu. Donc si on ressasse ça à chaque fois, mais j'aimerais qu'un cadre, j'aimerais que TJ il arrive, ou j'aimerais voir dans une vidéo du MHSC après un match et tout, arrêter de me faire chier avec cette histoire de pétard. On a quand même, on est des sudistes, on a des, je ne dis pas le mot, on est costaud mentalement, on a des baloches, si vous voulez.
Il avait dit qu'il ne dirait pas.
Non, mais et on ne va pas s'arrêter sur un pétard. Il y a 6 mois. Connaissant TJ en plus, en ayant joué avec lui, s'il y a un mec qui refuse de chercher des excuses sur des trucs extra-sportifs, lui, TJ, il déteste ça. Donc moi, j'aimerais qu'il leur rentre dans l'art et arrêter de dire à droite, à gauche que le pétard, il nous a flingué. Le pétard, c'est un fait de jeu, on a perdu des points, mais on aurait pu les regagner. Et par contre, arrêter à chaque fois qu'il y a une petite trêve internationale où il y a une contre-performance, même le coach, hein, honnêtement, le coach, c'est pareil. Quand on va à Nice, qui gagne à Nice, et qui nous reparle du pétard. Non, montre-moi que ton groupe est assez costaud psychologiquement pour encaisser ce truc et s'en servir d'une force. Parce qu'à la fin de la saison, si on descend, moi, je ne vais pas dire que c'est à cause du pétard. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. C'était le juge, pardon.
Après, là où je te rejoins, c'est sur l'impact mental, ou en tout cas la force mentale de ce groupe, c'est qu'on avait vu il y a 2 ans à Strasbourg, l'épisode de Wai, et à quel point Montpellier s'était désagrégé dans la foulée de ce match, que Wai ait été blanchi ou pas, peu importe, le résultat était là, le sentiment d'injustice était là, et derrière on sait ce que ça avait donné. Maintenant, t'as été sportif de haut niveau, Benji, et je peux pas balayer d'un revers de main ce que dit Benjamin Lecomte. Une dynamique, c'est dur à créer. Je trouve qu'il a raison. Une dynamique, c'est dur à créer. Une dynamique positive, clairement, les a fait basculer. Clairement, a cassé ça. Après, une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas d'en recréer une autre.
Oui, on a eu le temps de créer d'autres. Bon, voilà. Surtout quand on les a reçus à la
Le problème, c'est que tu as créé une dynamique négative en disant « c'est Clermont qui nous a mis dedans, c'est Clermont qui nous a mis dedans ».
Je ne pense pas que c'est en le disant. Je pense que c'est peut-être qu'inconsciemment...
Non, mais d'accord, mais Max, entre le match arrêté à cause du pétard et le match rejoué, combien de fois ils nous en ont parlé en conférence
là, c'était normal.
Cette dynamique-là qu'ils auraient pu déjà recréer sur cette période-là, et en arrivant à Clermont avec l'envie de les broyer, de les tordre, en fait, tu t'es mis toujours dans cette position de victime. Et ok, les joueurs n'y sont pour rien, on l'a déjà dit 10 fois, le pétard, c'est pas de leur faute, ils avaient les 3 points, on est d'accord. Mais t'aurais pu leur créer, justement, t'aurais pu avoir ce sentiment de vengeance, ce sentiment, justement, de.
Ouais, ça peut t'inhiber aussi.
Comment ?
Ça peut t'inhiber aussi, ça peut te bloquer.
Sportif. Après, comme tu dis, t'es sportif de haut niveau, t'es compétiteur. Moi, je te dis, le moment où j'ai eu le plus peur cette saison, c'est même pas maintenant, il le sait, c'est le débrief qu'on fait après le match de Clermont à huis clos. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on n'avait aucun mental. Parce que pendant 2 mois, Benjamin Lecomte, tous, le coach, sont venus nous dire on attend le match à rejouer, on l'attend et tout. Clermont, on comprend dans leurs déclarations qu'ils viennent en touriste, ils disent on n'aurait jamais dû avoir ces points. Quand je vois qu'on a joué, je ne sais pas si tu te rappelles, on a joué une demi-heure, la dernière demi-heure, on est un peu poussé, on n'a pas réussi à marquer. Mais quand je vois qu'on a abordé le match, on l'a abordé comme un amical, c'est là, dans le débrief, que je me suis très énormément inquiété. Et c'est pour ça que je ne leur apporte pas d'excuses, parce que tu aurais dû récupérer tes 3 points, on n'en parlerait même plus du pétard. Tu aurais tapé Clermont, on n'en parlerait même plus.
L'audience est levée.
Ouais.
Le combat est mais le résultat attendu, la paillade s'est inclinée aussi hier soir contre le PSG en D1. On y était avec Benjamin Psaume, défaite 3-1 après avoir été mené 2-0 à la pause, puis 3-0 jusqu'à l'entrée des arrêts de jeu. Ketna Lewis a réduit l'écart, Benjamin Psaume était déjà dans sa voiture avec un geste acrobatique fantastique.
Et toi, t'as raté le troisième but de Paris, je balance.
À la télé, il y avait un trou où vous étiez au début de la mi-temps, je sais pas où t'étais, Bertrand.
Du MHSC, les filles de Yannick Chandu ont enflammé le dernier quart d'heure, ce qui laisse quelques regrets évidemment au coach pailladin que j'ai interrogé. Roger tout seul.
Oui, bien sûr, parce qu'on arrive à marquer un but magnifique. Nous, on apporte de la fraîcheur et puis elles ont aussi géré. Peut-être, quand on mène 3-0, il y a un petit relâchement. Il y a peut-être un petit peu des deux. Surtout, moi, ma frustration, c'est ces 2 buts encaissés, en fait. Je les ai revus. On suit le ballon, on reste pas au marquage sur le premier. On va pas cadrer pour empêcher la frappe sur le deuxième, alors qu'elles ont très peu de situations dangereuses, en fait. Cosette n'a pas fait d'arrêt, c'est pas employé forcément. Bien sûr qu'elles ont dominé cette première mi-temps, mais en termes d'occasion, c'est pas fou. C'est pour ça que je suis déçu aussi par rapport à ça, bien sûr.
Quelques situations, vous en avez, qui peuvent terminer en occasion, elles sont pas toujours bien exécutées.
Ce type de match, où l'adversaire est supérieur, il faut toujours trouver ce juste milieu entre bien défendre, mais pas trop défendre, parce que trop défendre, en fait, ça nous enlève les opportunités de marquer des buts. Au match aller, on avait laissé quand même beaucoup d'espace. On avait concédé beaucoup d'occasions qu'elles ont concrétisées. Et nous, à l'inverse, on avait eu beaucoup d'occasions, mais qu'on n'avait pas concrétisées. Du coup, là, le schéma, c'était d'avancer dans le match. Si on regarde de plus près, il a mis quasiment son équipe type par rapport à l'effectif qu'il avait aujourd'hui, mis à part Baltimore. Et du coup, on espérait rester plus longtemps dans le match en vie. Et puis, en avançant dans le match, avoir ces opportunités. On les a eues, mais en ayant encaissé ces deux premiers buts, c'est cela qui me reste un petit peu en travers de la gorge.
Chawinga vous a fait très mal.
Mais Chawinga, c'est une des meilleures joueuses au monde aujourd'hui. Elle était un petit peu inconnue parce qu'à l'Inter, elle était un petit peu esselée. Mais là, en jouant dans une bonne équipe, c'est Chawinga. Depuis début de saison, elle a fait quasiment tous les matchs. Elle joue, elle est performante. Elle va finir meilleure buteuse du championnat et ça va devenir encore une meilleure joueuse, certainement.
Je reviens sur ça, le but de Ketna, il est quand même incroyable. Ça change rien au résultat, mais ça peut être top but à la fin de la saison.
Oui, c'est un but magnifique. Vraiment, c'est bien pour Ketna. Et du coup, on finit le match par une bonne note. C'est un peu mon discours après le match, c'est que voilà, on perd 3-1, c'est pas illogique en soi, mais on n'a pas non plus à rougir. On s'est bagarré, on sait qu'on a des lacunes, hein, sinon on serait pas là, et il faut vite se projeter. On a un match qui arrive dans 5 jours, celui-là il va être aussi important, donc voilà, il faut passer à autre chose avec toujours cette envie d'améliorer des choses, parce que jusqu'au dernier match on peut encore améliorer des choses.
Et ce sera le Paris FC, et le Paris FC ce sera d'un niveau similaire
actuellement. Peut-être que Paris FC est un petit peu moins bien, mais ils viennent de perdre. Du coup, ils auront aussi cette envie de revanche. Je pense que PSG est supérieur à Paris FC quand même. À nous de rehausser notre niveau par rapport à aujourd'hui pour aller chercher quelque chose. Mais je reste persuadé qu'on est capable.
Juste un truc, c'est Cosette dans les buts, c'était un choix ou c'était une contrainte?
C'était un vrai choix. Elle travaille bien aussi. Et c'était un choix. Je ne l'ai pas trouvé forcément inspiré sur tout ce qu'elle a fait. Mais voilà, ça fait aussi souffler Marie et l'enchaîner les matchs. Marie, il faut quand même savoir qu'elle est toute jeune et c'est sa première saison d'air.
Et prochain match donc, déplacement au Paris FC vendredi soir à 21h. Le mot de la fin, Benjamin?
C'était sympa, mais Paris a été au-dessus. Sur ce match-là, Paris a été au-dessus et les Montpellierennes ont eu du mal. Après, heureusement, il y a un top but pour égayer un peu parce qu'il y avait un peu de monde hier à Grammont. Mais les Parisiennes, honnêtement, elles étaient vraiment au-dessus.
Ouais, et le Montpellier Hérault est descendu du coup au classement 6e avec égalité de points avec Fleury 5e et un point de retard sur Reims. Ça va être tendu jusqu'au bout pour aller accrocher ces barrages qui vont jusqu'à la 4e place. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous.
Merci.
Benjamin Psaume, pas mal, vraiment pas mal.
Ouais, soir, tu te rattrapes, tu m'as attaqué. C'est vu que j'ai pas oublié ça.
Extraordinaire.
Merci. Sauf le coup de la.
Tu peux pas me dire pas mal.
Il y a la cale qui est tombée là. Je sais pas d'où elle vient.
Maxime Reynaud, ouais, il y a une cale
parfois. Quelconque, Maxime Reynaud.
Oui.
Merci également à Pierre d'avoir réalisé cette émission. Elsa également au standard qui a pas eu beaucoup de boulot, on peut le dire.
100% paillade sur France Bleu Héros.